À votre écoute, passion, partage, bonheur, motivation, vous avez la parole sur Radio Cité. Pour le meilleur et pour le dire, merci la vie.
Merci la vie, bien sûr, merci la vie.
Merci la vie, ouais.
Merci la vie.
Merci la vie.
Merci la vie.
Merci la vie, c'est sur Radio Cité, 92.2.
Chers amis, auditrices, auditeurs de Radio Cité, bonjour. La personne qui est en face de moi, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, que vous connaissez déjà certainement, c'est René Longet. Je lui ai téléphoné il y a quelques jours parce que ça me faisait simplement plaisir de le rencontrer, de voir ce qui se passe dans toutes ses activités. Je n'ai aucune idée de quoi on va parler, et lui non plus. Mais voilà, il y a des gens, je sais que si je vais les voir, ça va être sympa. Donc c'est d'abord le plaisir de te rencontrer de nouveau, cher René.
Bien, plaisir partagé. Alors j'ai fait comme toi, Michel, je me réjouis de te revoir, d'échanger, parce que toi aussi, tu n'es pas que quelqu'un qui tend le micro, mais on te tend le micro, tu as fait beaucoup de choses dans ta vie, donc on peut échanger aussi sur nos activités respectives. On s'est beaucoup retrouvés sur beaucoup de thèmes, par exemple la nourriture. On mange tous les jours, en principe en tout cas, et on aimerait manger intelligemment, on aimerait savoir d'où ça vient, qui l'a fait, dans quelles conditions, etc. Rien que cette question-là, elle était longtemps occultée. On a aussi beaucoup travaillé ensemble sur les enjeux de durabilité. C'est presque, je dirais, une philosophie, une façon de voir le monde qui devient de plus en plus compliqué et de plus en plus éclaté en mille morceaux, au propre comme au figuré. Et on a besoin d'avoir un éclairage et aussi un chemin. Je pense que les gens aujourd'hui souffrent d'être atomisés quelque part, avant de l'être, j'espère jamais, mais enfin, concrètement, mais disons atomisés mentalement et émotionnellement, chacun un peu dans son coin, on a perdu le fil. Alors quelqu'un disait l'autre jour dans un débat sur, au fond, je dirais pas le féminisme, mais plutôt la féminité, ou pourquoi, enfin comment on peut trouver à travers l'égalité de droit entre hommes et femmes un chemin pour la durabilité, pour un avenir plus serein. C'était le 8 mars, hein, un événement là-dessus, et quelqu'un disait à l'époque, on avait la religion et on a peut-être bien fait de sortir d'un dogme auquel la plupart des gens peut-être ne croyaient pas, auquel était imposé, qui est encore imposé dans le monde à beaucoup, beaucoup de monde, hein, un dogme. Eh bien, maintenant, on est libre, on est lâché dans la nature. On est en train de se perdre un peu, quoi. Donc, comment retrouver un fil? Je crois que ça nous lie aussi. Et je pense que pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est certainement une question aussi. Je vais où et nous allons où collectivement?
Alors, ne pas perdre le fil. Et tu as parlé tout à l'heure de nourriture. Tu m'as dit, parce qu'on a eu à peu près 30 secondes pour discuter avant que j'ouvre mon micro, tu m'as dit que tu étais au Salon du Livre dans un contexte un petit peu spécial et original. Tu étais avec une association qui, elle, va promouvoir la nourriture et la façon de cuisiner à des enfants. C'est aussi une façon de ne pas perdre le fil, ça.
Absolument. Donc, l'enfance, c'est une banalité biologique. C'est l'avenir de l'humanité. Et comme cet avenir est assez compromis, parce qu'on a, on a tout fait pour qu'il le soit, n'est-ce pas? On est en train de mettre à mal la planète sans aucune raison, juste parce qu'on a le goût du pouvoir et de la domination et qu'on est encore dans la conquête de l'Ouest, qui est déjà largement conquis et démoli. Donc, un des premiers devoirs, c'est de voir comment on peut outiller les enfants, la jeune génération, pour qu'ils puissent faire face aux défis qu'ils auront à relever. Et là, il y a une organisation que j'aime beaucoup qui s'appelle Swiss Food Academy et qui réunit des équipes enthousiastes, compétentes autour de programmes pour donner des repères et des belles expériences. Il y a des repères en termes d'actes, mais aussi en termes de souvenirs autour de la nourriture. C'est pas toujours possible aux familles de donner le bon exemple ou d'avoir le temps ou d'avoir peut-être la capacité, dans tous les sens du terme, de bien faire à manger, de montrer aux enfants que c'est simple.
Et puis d'où ça vient?
D'où ça vient, ça c'est encore, oui, ça c'est la question supplémentaire, mais on pourra y revenir. Mais simplement, les enfants, ils mangent tous les jours, hein, comme les adultes. Qu'est-ce qu'on leur donne à manger? On achète ça où? Et est-ce qu'on a le temps de leur apprendre à cuisiner? Souvent, les parents eux-mêmes, ils n'ont pas le temps, ils ne savent pas non plus comment faire. Alors, ce qui est passionnant, c'est que les fondements, ils sont à la fois dans l'instinct de l'être humain. Chaque être humain a faim, donc il cherche les nourritures. Et la culture nous donne quelques garde-fous, mais aussi notre instinct. Et puis après, on doit apprendre beaucoup de choses. Apprendre que ce qui est nécessaire à l'organisme, apprendre comment on le prépare, apprendre les qualités, apprendre les quantités. Et c'est assez passionnant. Mais l'école est assez absente dans cette démarche. Et les parents, souvent, malheureusement, aussi. Donc, Sweet Sweet Academy, ils remplissent cette lacune, en fait, puis donnent ces outils. Et je trouve que c'est vraiment très bienfaisant. Donc, c'est simple. Il y avait, par exemple, des grands chefs qui ont expliqué très simplement, ça dans des livres, justement, dans des recettes, comment on peut être à la hauteur de quelque chose qui a du goût, qui est gastronomique, si on veut, mais c'est pas le but, hein, mais qui a des belles couleurs, qui a des belles odeurs, qui a un bon goût, et qui en même temps correspond aux besoins nutritionnels de la journée. Et donc là, c'est vraiment être sur le terrain de la vie, au plus proche de ce qu'on peut dire à ce sujet. Donc moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Ils le font avec beaucoup de compétences, de doigté, d'intelligence, de finesse. Ils sont très efficaces. Donc, l'organisation avait un stand au Salon du Livre. Ça dure 5 jours, comme on sait. Et à chaque jour, ils ont sollicité une personne de leur cercle pour faire une signature de livre. Alors moi, j'étais un peu hors norme parce que j'ai pas fait de livre de cuisine proprement dit, mais j'ai présenté un livre que j'ai publié il y a 4 ans sur l'agenda 2030 des Nations Unies, qui est la synthèse des enjeux de la durabilité tels que convenus internationalement. Et ce livre porte le titre de cet agenda 2030. C'est pas moi qui ai osé écrire comme ça, mais ça s'appelle un plan de survie de l'humanité. Et ça, c'était le titre des Nations Unies. Alors évidemment que l'alimentation en fait partie. Donc je présentais cela samedi dans le contexte en disant l'alimentation, c'est un élément clé de la durabilité.
Alors, on parle cuisine, mais à mon sens, tu fais partie des ingrédients, toi. Des ingrédients qui fait que pour savourer un monde un petit peu meilleur, Tu t'es dédié pendant très longtemps, et j'espère que tu vas continuer à le faire, à éditer de beaux ouvrages à ce sujet-là. Tu peux me brosser un petit peu les thèmes que tu abordes sur ces ouvrages ?
Je pense que ce que j'aime bien faire, c'est fédérer des énergies et des bonnes personnes autour d'objectifs. Et on se rend souvent pas compte à quel point, notamment dans les ONG, la structuration est importante. C'est-à-dire qu'il y ait une organisation qui soit claire, où les gens soient à leur place, que les bons côtés de l'humain soient valorisés, parce qu'on est tous assez ambivalents, on a tous des côtés narcissiques, on a tous des côtés parfois répétitifs, on ne sait pas toujours bien communiquer, on aime bien dire ce qu'on pense soi, mais on ne pense pas si c'est reçu par d'autres, etc. Donc, faire en sorte qu'on soit efficace. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de changer, et le changement doit être vite, mais le changement prend du temps. Et ça, c'est cette contradiction qui crée une tension et du stress et une frustration, parce que on sent que quelque part les choses se dégradent, hein. On voit il y a de moins en moins de gens qui connaissent un environnement naturel acceptable, il y a de moins en moins de gens qui vivent dans des régimes qui s'appellent des états de droit, donc qui sont dans les régimes autoritaires voire dictatoriaux, il y a de moins en moins de gens qui ont une perspective sereine, donc on est dans un monde où tout le monde est un peu angoissé, qui entre dans des zones de turbulence. Et si on veut préserver des valeurs humanistes, il faut qu'on soit efficace, il faut qu'on soit rassurant, il faut qu'on montre aux gens que la voie qu'on préconise, et je dis exprès la voie parce qu'un très grand sage qui fête ses 102 ans, qui s'appelle Edgar Morin, qui a appelé un de ses meilleurs livres La Voie, et c'est pas pour dire suivez-moi, c'est plutôt suivez une voie, et que ces voies convergent. C'est un Gandhi disait un peu la même chose, hein. Voilà, on se retrouve un petit peu dans cette vision. Cherchez votre propre centre, puis vous pourrez converger. Et ça, c'est assez important, parce que souvent, on s'engage, mais on ne sait pas trop pourquoi. Donc, chaque fois, dans une ONG, on doit faire aussi l'examen de conscience. Est-ce que mon comportement est adéquat ? Est-ce que je travaille pour le monde, parce que j'ai besoin que le monde aille de l'avant ? Donc, c'est aussi pour moi que je travaille, bien sûr, parce que c'est mon monde, c'est ma partie du monde. Ou bien est-ce que je travaille parce que j'ai besoin de reconnaissance, parce que je m'ennuie, parce que je cherche du lien social. Ça peut être des motivations, mais ça ne doit pas, quelque part, occulter le but général qui est d'amener sa pierre au rééquilibrage du monde. Donc moi, je m'engage beaucoup pour donner question d'organisation. C'est assez frustrant parfois, mais voilà, il faut veiller comment sont rédigés les textes, il faut veiller que les choses soient planifiées, il faut être réaliste. Beaucoup de gens ont plein d'idées, mais après il faut les mettre ensemble, etc. Donc je suis assez actif dans des structures où j'essaie de donner de la structure, si on veut. Puis après, moi, je m'adresse... Ça, c'est des lieux plus précis, plus restreints, dans lesquels j'emmène ma contribution, parce que je veux mettre en avant des enjeux qui puissent convaincre d'autres et qui puissent rassurer d'autres. Parce que les gens, sous la peur, font des mauvaises décisions.
Alors, ce que j'aime dans tes ouvrages, c'est que tu n'es jamais culpabilisant. Tu essaies de démontrer des voies, comme tu viens plus ou moins de le relater maintenant. Tu fais partie, à mon sens, de ces gens qui ne vont pas dire que tu as fait une faute, mais tu as fait une erreur.
Mais disons, ça n'amène à rien de culpabiliser les gens, parce qu'effectivement, on se trompe tous, sinon on ne serait pas des humains. Et si on doit être parfait, ben on n'y arrivera jamais. Et c'est un peu ce qui se passe aussi avec les discussions sur la durabilité ou l'environnement. Maintenant, on demande aux entreprises, et on a bien raison, un effort. Mais comme elles ne sont pas meilleures que nous tous, elles existent parce qu'il y a un marché. Elles existent s'il y a des gens qui ont des demandes intelligentes. Et si des produits stupides trouvent preneur, force publicité, ça aide bien sûr. Enfin, si les gens se laissent prendre à des produits stupides, les produits sont là. Et si on produit des choses intelligentes et qu'elles prennent, elle ne trouve pas preneur, ben on est embêté. Donc, quelque part, l'économie ne peut pas faire tout juste comme nous ne pouvons pas faire tout juste. Alors, on a tellement critiqué toutes les promesses, forme que c'était du greenwashing, que c'était de la tromperie, etc. Il y a des tromperies intentionnelles. Quand les pétroliers vous disent qu'il n'y a pas de changement climatique, ou que l'aviation n'est pas responsable du changement climatique, ou co-responsable, mais la plupart essayent. Et quand on pointe toujours le doigt sur les gens, ou sur les entreprises, ou sur les politiques, ben ils finissent par plus en parler. Et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que maintenant, on parle de plus en plus dans le monde des entreprises de ne plus évoquer des performances durables ou environnementales parce qu'on se fait toujours critiquer. Donc, on a le résultat contraire. Donc, les gens fuient, les gens ne veulent plus en entendre parler à force d'avoir l'impression d'être culpabilisés. Ben, c'est aussi une impression qu'on, soi-disant, n'a plus le droit d'aller en voiture, n'a plus le droit de manger de la viande, etc. C'est des rejets de simplification, mais ça n'a jamais été dit comme ça. Ben, ils finissent par voter pour des gens qui vont totalement à l'encontre du bon sens, quoi.
À l'encontre du bon sens, ça me rappelle une image qui me réveille des fois le matin de façon un petit peu bizarre. J'ai envie de me rendormir pour me réveiller autrement quand ça se passe. C'est quand même étrange. En ce moment, la maison brûle et il y a encore des gens qui se battent pour leur appartement dans cette même maison.
Ben, disons... Ça fait partie de la manière dont on parle des choses. Si, moi, j'ai toujours été contre une vision catastrophiste. C'est extrêmement démobilisateur. Il y a eu des conférences ces 10 dernières années qui remplissaient les salles de gens. Je ne veux pas donner de nom parce que ce sont des personnes honorables, mais qui, à mon avis, se trompent, qui leur disent « c'est la catastrophe ». Si je fais le bilan de tout ce qui va mal dans le monde, on va droit dans le mur. Tout le monde dit « ça va droit dans le mur ». Mais les gens, ils sortent de là désespérés et ils ont l'impression que alors l'orateur ou l'oratrice leur dit « De toute façon, tout doit changer. Hein, et il faut tout arrêter. Mais il n'y a pas la moindre idée sur comment faire. » Et vous pouvez être la caissière au supermarché. D'ailleurs, elle ne va pas à ce genre de conférence. Heureusement pour elle, je pense. Elle va se dire demain « Mais je fais quoi si tout s'arrête ?» je dois quand même payer mon loyer, mon assurance maladie, ma retraite et tout ça, et gagner ma vie. Donc, ce n'est absolument pas... productif, parce que d'abord ça démoralise, et ensuite il n'y a pas de solution. Et dès qu'il y a une solution, elle est critiquée. Alors les éoliennes, on déteste, la voiture électrique, c'est nul. Bien sûr, les éoliennes, il ne faut pas les mettre n'importe où. Bien sûr, la voiture électrique, il ne faut pas l'utiliser aussi bêtement que la voiture qu'on a aujourd'hui. Il ne faut pas que ce soit une voiture qui pèse 2 tonnes et qui fasse du 200 à l'heure, ça n'a aucun sens. Il faut qu'on puisse recycler les matériaux, il faut qu'on arrête de puiser les métaux n'importe où dans le monde, mais il faut passer à l'économie circulaire, etc. Donc il faut montrer des solutions et arrêter de tout le temps tout critiquer. Ça me paraît très important, tout en étant lucide. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, les gens se replient sur eux. Ils n'ont plus envie d'en entendre parler. Donc quand on leur parle changement climatique, alors qu'il est devenu une évidence, il n'y a plus personne qui peut dire que ça n'existe pas, notamment pas les paysans, notamment par les gens des régions de montagne, qui étaient ceux qui, encore quelques années, rejetaient les mesures climatiques, ben, il y a encore des gens qui pensent que c'est pas fait par l'être humain. Il y a des gens qui pensent que ça peut être bienfaisant. Il y a un président de parti gouvernemental suisse qui disait « Oui, moi je suis paysan, mais j'aime bien quand il fait chaud. Moi, j'aimerais bien qu'il assume ça quand il y aura des incendies de forêt, parce que je pense que les propriétaires de forêt ou les voisins vont pas trop apprécier. » Enfin voilà, on est en train de... de minimiser le danger au fur et à mesure qu'il se rapproche. Et quelque part, ça nous rappelle un peu ce qui peut se passer dans les questions de santé. On sait bien, moi j'appelle ça un peu le syndrome du dentiste. On a une petite mal aux dents, on a eu un peu mal aux dents la nuit, on se réveille, c'était un cauchemar, on en finit, on se réveille, on oublie. Quelques jours après, on a le mal de dents quand on est réveillé, on se dit une petite carie, puis on se dit c'est pas grave. Quelques mois après, on a vraiment mal et on doit aller chez le dentiste. Ça creuse, ça fait mal, ça creuse le porte-monnaie, ça coûte une certaine somme et on aurait pu l'éviter. Il n'y a jamais une carie qui s'est remise toute seule. Ça, c'est une illusion.
Puis donc, en plus, au moment d'aller chez le dentiste, on va dire c'est bizarre, j'ai moins mal aujourd'hui.
Bon, ça peut-être, mais disons, on a en principe le rendez-vous, on l'a pris en connaissance de cause et on sait ce qui va se passer après. Parce qu'après, ça va être l'extraction et l'implant. Donc c'est encore plus cher. Donc on n'y échappe pas. Alors le problème, c'est on fait du déni. Et c'est la même chose pour la santé. Il y a des gens qui n'arrêtent pas de fumer, il y a des gens qui n'arrêtent pas de manger de la malbouffe. Ils savent que c'est toxique, ils le savent très bien, et ils continuent quand même. Et ils disent « je peux pas ». Ben voilà, ils peuvent pas, mais quand ils sont vraiment sur leur lit de mort ou avant à l'hôpital, ben ils regrettent, ils disent « ah, c'est quand même bête, j'avais pas la force ». Eh bien, on est un peu comme ça aussi collectivement, et surtout qu'on est dans un pays où on est encore grosso modo préservé, les effets directs du changement climatique, les skieurs sont embêtés, etc. Mais la plupart des gens s'adaptent encore. Ben, par contre, dans beaucoup de pays du monde, on ne peut plus s'adapter. Quand il fait 40 degrés ou 50 degrés, on ne peut plus s'adapter. Ou bien quand l'océan commence à monter, il y a déjà quand même 20 cm de plus qu'il devrait y avoir. Ben, quand il y a des inondations, etc., on ne peut plus vivre dedans. Donc c'est aussi une attitude très égocentrique de se dire « nous, on est sur une petite île, en Occident, on est encore bien tranquille ». Ben, c'est un petit répit qu'on ferait mieux de prendre, de mettre à profit pour changer les choses.
À profit, changer les choses.
À propos.
À propos. Tu sais que dans cette émission, on a un petit rituel à un moment ou à un autre. Je demande toujours, et je le demande à toi René cette fois, quand quelqu'un dit « merci la vie », comment ça résonne en toi ?
Ben moi, ça résonne fort parce que j'ai maintenant quand même atteint un certain âge. J'ai fêté mes 70 ans il y a quelques années. J'ai pas trop eu de soucis de santé. J'ai plein de choses intéressantes que je peux faire. Et je connais plein de gens avec qui je m'entends bien. Puis je peux pas me plaindre. Je suis tout à fait content de ce qui se passe pour ce qui me concerne. Mais effectivement, je peux donc un peu plus peut-être que d'autres m'investir sur ce qui me concerne indirectement ou demain. Donc, tous ces soucis qu'on a aujourd'hui par rapport aux guerres, par rapport aux dictatures, par rapport aux gens opprimés, par rapport aux espèces animales et végétales dont on détruit l'habitat, par rapport à l'avenir qu'on noircit, j'ai peut-être un peu plus de moyens que d'autres de m'y consacrer. Puis parfois, ça c'est le côté un peu plus plombant, je dois dire.
Alors, tu me parlais de demain, moi j'aimerais que tu me parles d'hier.
Hier.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui, dans ces dernières 24 heures, t'a donné une joie, une étincelle positive en se disant, tiens, si j'avais pas été quelque part here and now, ici et maintenant, je n'aurais pas vu que ça m'aide de façon positive à continuer mon chemin.
Ben, hier, samedi, et donc le 9 et hier, dimanche le 10, j'étais les deux fois au Salon du Livre. J'aime beaucoup cet événement. Je trouve qu'il s'est bien amélioré parce qu'en temps, c'était une immense foire. On ne s'entendait même plus. Il y avait des conférences partout et ça hurlait de tous les côtés. Ça s'est un peu assagi.
On t'y entendait aussi.
Pardon ?
On t'y entendait aussi.
Oui,
dans
oui
ces...
j'y vais aussi régulièrement. Mais on n'a pas non plus tellement de public quand les gens vont et viennent et que tout le monde hurle en même temps. J'ai trouvé que ça s'est assagi et dans le bon sens du terme, c'est devenu plus sage. On a plus de temps pour se poser. Et j'ai rencontré plein de gens intéressants. Et j'étais très heureux de voir que le livre qu'on disait moribond ne l'est pas du tout, en fait. Bon, ça devient un peu un produit de consommation. Et quand un thème est à la mode, il y a au moins 30 éditeurs qui publient les mêmes livres sur les mêmes sujets. Mais voilà, au moins, on a le choix. Et c'est pas ce qui pollue le plus dans le monde. Moi, je trouvais vraiment important qu'on puisse sortir de cette tyrannie du numérique qui est soi-disant durable, ce qui n'est pas le cas du tout. à aucun sens du terme, c'est en train de déconstruire le lien social. Au lieu de donner des outils de compréhension, ça véhicule n'importe quoi. Enfin, là, on a vraiment... Le livre, c'est quand même ancré dans le temps. Et c'est ça qui est important. Il faut du temps pour le lire, il faut du temps pour l'écrire. Il faut... Ça, on le remet, on le reprend quand on veut. Et un siècle après, d'autres peuvent encore le relire. Donc moi, j'aime beaucoup le livre et les échanges autour du livre.
Alors, il y a quelque chose de très proche entre le livre et la radio. C'est que ça laisse travailler l'imaginaire aussi.
Ah, mais absolument. Bon, la radio, c'est un produit fluide. Hein. On écrit, on parle, on peut écouter, on peut réécouter. Quand on écrit, c'est écrit. Hein. On ne peut plus tellement modifier l'écrit. On peut modifier, on peut couper des émissions de radio, on peut...
Alors, cela dit, chers amis auditrices et auditeurs, je vous rappelle que toutes ces émissions, on les retrouve sur podcast, et j'espère pendant encore très longtemps, parce que ton message, il me fait très plaisir, et je sais qu'il sera reçu correctement par nos auditrices et auditeurs. Tu as maintenant un livre qui te tourne dans la tête ?
J'allais d'abord dire que cette émission n'est certainement pas restructurée et recoupée et recrachée, donc vous avez l'original devant vous en l'écoutant. Mais je voulais encore dire, hier, moi j'ai eu une journée aussi exceptionnelle, le 10, parce que je suis, par mes engagements de longue date, il y a l'engagement autour du Tibet. Le Tibet est un endroit parmi les plus opprimés du monde, et il regroupe beaucoup des thèmes d'aujourd'hui, c'est-à-dire d'abord la dictature, donc le non-respect total de l'individu, la destruction d'une culture et d'une tradition, la destruction d'une spiritualité qui est l'antithèse de l'intégrisme. La religion a deux pôles, la spiritualité et l'intégrisme. L'intégrisme, c'est le mal, la spiritualité, c'est le bien, je me permets de le dire. C'est aussi la nature, c'est la source des grands fleuves d'Asie, c'est le lieu du changement climatique, c'est le lieu où une puissance impérialiste est en train de prendre toutes les ressources naturelles pour elle. Donc voilà, quand on parle Tibet, on parle de tout ça. On a la figure emblématique du Dalai Lama, tout ça, c'est un grand sage de notre époque. Eh bien, hier, on a eu beaucoup de plaisir de rencontrer énormément de gens. D'abord, le matin, il y avait une petite réunion très sympathique du groupe Jeune Voix de la Société d'Amitié Suisse-Tibétaine, dont je suis le responsable. Et ensuite, on est allé à la grande manifestation des Tibétains de Suisse. Tibétaines et Tibétains, il y avait plusieurs centaines de personnes. Qu'est-ce qui s'est passé le 10 mars ? Eh bien, en 1959, ça fait 9 ans que les Chinois avaient envahi et annexé le Tibet, qui avait oublié de faire valider sa déclaration d'indépendance qui avait été proclamée en 1913 par les grandes puissances. Après, c'était trop tard, il y avait la Première Guerre mondiale et tout ça. Puis la Chine, ensuite, était complètement absente, prise par la guerre civile. Bien voilà, Mao, après sa victoire, est arrivé à Lhasa, a pris le pouvoir sur le Tibet. Et le 10 mars 1959, les Tibétains en avaient assez des ingérences constantes de l'armée chinoise. Et il y a eu un soulèvement. Eh bien, vous pouvez vous en douter, chers auditrices, chers auditeurs, un soulèvement en Chine, c'est impensable. Eh bien, il a été écrasé dans un bain de sang. Et le Dalai Lama a dû s'enfuir avec 100 000 Tibétains au fil des mois. Il est toujours aujourd'hui en Inde. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Ben, ça a été la révolution culturelle qui a été dramatique au Tibet, mais aussi partout en Chine. Ça a été la destruction de 90% des couvents, des monastères en Chine, des biens culturels. Et encore aujourd'hui, une chape de plomb qui pèse sur la Chine et sur le Tibet en particulier. La langue est actuellement persécutée, on peut dire. La religion est étouffée. Il y a des centaines de milliers d'enfants qui sont éloignés de leurs parents pour être mis dans des internats où ils doivent devenir des petits Chinois. Ben, on a fait la même chose avec les autochtones au Canada, n'est-ce pas ? Mais bon, voilà, donc c'est des méthodes éprouvées et qui, heureusement, n'ont pas pu complètement supprimer la culture des autochtones d'Amérique du Nord. Mais enfin, on continue. Donc voilà, donc pour moi, c'était très beau de voir tous ces Tibétains en Suisse réclamer la liberté pour leur patrie.
Eh bien là, tu viens de me proposer un thème pour notre prochaine rencontre, cher René, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à dire, beaucoup à... Et peut-être on pourrait le faire d'ailleurs avec quelques représentants de ces communautés.
Absolument.
Tu serais d'accord ?
Absolument. Alors oui, alors tout à fait. Donc il y a... En fait, l'histoire du Tibet, c'est une histoire très intéressante parce que lorsque le Dalai Lama a dû partir avec ses compatriotes, 100 000, quoi, il y a encore 6 millions de Tibétains au Tibet aujourd'hui, qui survivent comme ils peuvent, quoi. c'est plus leur pays, c'est une prison à ciel ouvert, mais ils sont toujours là. Et ces 100 000 Tibétains, ils sont essentiellement en Inde, où ils ont pu se redéployer, reconstruire les différentes structures religieuses aussi, enseigner leur langue. Et en 1960, le gouvernement suisse, je ne sais pas si on le ferait aujourd'hui, a accepté un contingent de 1 000 Tibétains pour venir les inviter en Suisse.
Ils ont une vallée, je crois, quelque part en Suisse.
Alors, ils n'ont pas une vallée, mais il y a effectivement quelque chose du genre. Il y a un industriel suisse qui s'appelle Kuhn, qui est un constructeur de matériel de cuisine, notamment casseroles, etc., qui a été très intéressé par héberger une partie des Tibétains et aussi leur donner un lieu de repère spirituel et culturel. Et il a financé la construction d'un centre monastique tibétain dans la région de Winterthur.
Ah, alors, voilà, c'est ça. Voilà,
donc c'est effectivement un petit vallon boisé dans le canton de Zurich, c'est à Rikon. Et là, il y a un beau bâtiment. Moi, j'ai pas encore été d'ailleurs. Un beau bâtiment qui est un peu un repère pour les Tibétains de Suisse. Ils sont essentiellement Suisses alémaniques. Aujourd'hui, ils sont 8 000. Il y a 8 000 personnes en Suisse qui sont d'origine tibétaine. La plupart sont naturalisés, mais ils continuent d'arriver des sans-papiers d'Inde. C'est pratiquement impossible aujourd'hui de sortir du Tibet sans être vu ni connu. La technique aujourd'hui, n'est-ce pas, ne permet plus les passages à cheval, incognito, dans la neige, comme c'était le cas il y a encore 30 ans. Donc voilà, c'est impossible de sortir du Tibet.
Ben vous avez compris, chers auditrices, auditeurs, si je ne refais pas remarquer à René que l'on peut consacrer une fois une émission sur ce thème-là, je crois qu'on va continuer des heures. Ça sera avec grand plaisir, mon ami. Là, où vous l'avez peut-être remarqué, on est dans un restaurant, il y a un petit peu de bruit. On nous a fait remarquer qu'il fallait bientôt que l'on cesse parce qu'ils vont passer l'aspirateur. Donc, je suis navré d'interrompre, sergent, cet entretien maintenant. Mais ce que je suis persuadé, c'est que prochainement, on va continuer ces belles rencontres. Donc, je te remercie du fond du cœur du temps que tu nous consacres. Et chères auditrices, auditeurs, merci pour vos retours tellement positifs. C'est vraiment un grand bonheur. Alors, à tout bientôt. Merci à vous. Merci la vie.
Merci.